Et maintenant, c'est l'heure d'RLP Sport avec Thomas. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'RLP Sport, la deuxième de la saison, et on reçoit Jonathan Blondy, le tout nouveau président du district de football Dordogne-Périgord. Bonsoir Jonathan.
Bonsoir, bonsoir.
Donc, élection fin juin, prise de fonction 1er juillet, deux mois maintenant.
Oui.
Quel constat on peut faire déjà ?
Il y a du boulot.
Ah merde.
Voilà, il faut se le dire pour le coup. Non, mais voilà, il y a du boulot. Ça a été un été studieux de la part de l'ensemble du comité de direction, des commissions et des salariés pour le coup, puisqu'il fallait tout mettre en place. Hein. Donc il y avait toutes les commissions à nommer, il y avait tout le projet à mener, et puis il y avait des premiers chantiers où il y avait une certaine urgence à traiter. Donc voilà, un été studieux où toutes les commissions ont travaillé. Mais aujourd'hui, je suis un président satisfait, on va dire, de l'été que l'on vient de passer, de ce que l'on a mis en place. C'est que le début. Il y a encore de nombreuses marches à gravir, mais les premières étapes sont plutôt satisfaisantes pour l'instant.
Bah, c'est super. Très bien. Ce week-end, c'était le... Alors, c'est pas réellement ce week-end le début des compétitions organisées par le district, parce qu'il y avait un tour de coupe.
Tout à fait. Le coup d'avant.
Mais là, c'était le début des championnats.
Oui, exactement.
On n'était pas un peu stressé, président, vendredi soir?
Un petit peu, parce que quand on a vu la météo arriver...
Il y a ça aussi.
Alors, moi, j'avoue que j'étais pas forcément stressé sur le déroulé des compétitions, j'étais plutôt stressé sur la météo, parce que quand on sait la saison dernière que l'on a vécu, là je me suis dit, alors là je vais prendre une carafe d'eau d'entrée pour débuter, et puis finalement il y a qu'un seul match qui a été reporté,
ouais, à Saint-Vincent,
je crois. En D4 à Périgord-Vert.
Périgord-Vert. Ah, je crois que Saint-Vincent de Conzac n'a pas joué, je crois, samedi soir.
Samedi soir.
Aussi.
Oui, ouais. Alors c'est un petit peu différent.
D'accord.
D'ailleurs, on pourra en parler et j'expliquerai la genèse du dossier. Mais,
Non,
mais il y a eu un match reporté pour un arrêté municipal, et il y a eu un match reporté pour des raisons totalement différentes, en l'occurrence, puisque Saint-Vincent, en fait, un mois avant la publication des calendriers, avait sollicité le district en nous indiquant qu'ils avaient, en fait, tout simplement le capitaine de l'équipe qui se mariait samedi et qui avait...
Félicitations à lui.
Exactement, M. Cipierre. Et du coup, ils avaient demandé à ne pas jouer ce week-end-là, avant même qu'on établisse même le calendrier général.
D'accord.
En nous envoyant l'attestation de la mairie comme quoi ils se mariaient. Donc... on a été bienveillants et on a estimé que c'était un cas de force majeure. On sait la difficulté de trouver des salles et de réunir toute une famille. Et on a considéré en effet que sur cette première journée...
Trouver une femme aussi.
Hein, donc du coup, on a informé le club adverse. Alors il y a quelques licenciés sur les réseaux qui n'ont pas compris la décision du district.
Oui, non, mais...
Mais on a fait preuve d'écoute.
Voilà. D'accord. Super. Donc le week-end, alors comment il s'est passé
Bien déroulé dans l'ensemble. Moi, j'étais pas mal sur les terrains samedi soir et dimanche. Pas de fait majeur, un ou deux matchs qui a été un peu plus... chaud que d'autres, mais pas de fait grave en tout cas, pas à ma connaissance. Quelques cartons rouges qui vont être traités par la commission de discipline demain soir, mais pas de fait d'agression, rien de particulier. Un week-end plutôt calme dans l'ensemble.
Eh bien, très bien. Alors, donc du coup, c'était le lundi soir où c'était un peu moins calme, puisque hier soir c'était la grande réunion de la rentrée des clubs organisée par le district.
Oui, tout à fait.
Combien de clubs présents ?
78 clubs.
Sur 100, à
peu
près.
99.
Ouais,
exactement.
C'est un beau pourcentage.
On en parlait avec Patrick Mattenay hier soir. On en parlait également avec les salariés qui sont là depuis plus de 20 ans. Ils n'avaient jamais vu cette salle aussi pleine et aussi complète. Il y avait plus d'une vingtaine de personnes qui étaient debout, qui pouvaient pas s'asseoir.
D'accord.
Donc on avait basé sur 150 places assises.
Donc, c'est très bien.
Donc on était à plus de 160 personnes hier soir et ça a été une bien belle soirée et bien intense en tout cas.
Bien intense, avec des hommages rendus à Bernard Delol,
oui.
le décédé Bernard Delol, qu'on regrette tous.
Exactement.
À Patrick Mattenay, président historique du district de football de la Dordogne, et à Patrick Desmarais aussi, qui a été secrétaire.
Secrétaire général et qui a été élu au comité de direction depuis 1940. 96 jusqu'à 2024.
D'accord.
Et donc, et puis bien évidemment, Patrick Matenet,
qui a été l'incontournable.
L'incontournable, saison de présidence membre du comité de direction depuis 1980
une
jusqu'en 2020. Une affiste, arbitre, président de la CDA.
Oui, on est d'accord.
Et puis Bernard Delol, qui est décédé malheureusement en décembre 2019. Qui était normalement sur la liste à Éric Lacour et donc avec moi également.
Exactement.
Et qui nous avait quittés pendant la campagne. Et c'était un moindre mal que de lui rendre hommage par rapport à tout ce qu'il a donné.
Donc voilà. Justement, on en parle souvent dans les clubs, l'histoire pour le district.
Oui.
Ça va être un leitmotiv important, conserver l'historique, conserver, s'appuyer sur les anciens.
Exactement. Aujourd'hui, on a besoin de... On est une équipe jeune, hein, faut pas l'oublier, hein, on est 42 ans de moyenne d'âge. Donc aujourd'hui, on a aussi besoin d'entendre les victoires et les défaites du passé pour justement, nous, plus rapidement en tout cas, prendre nos marques, même si le fonctionnement du district, je le connais et je suis pas novice dans le football. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin d'entendre ce qui a été fait par le passé. Mes relations avec Patrick Desmarais, avec Patrick Matenet sont excellentes. Je les ai régulièrement, soit je les vois, soit je les appelle. L'objectif, c'est de pouvoir sonder aussi, de pouvoir prendre des conseils. Mmh. Tout en modernisant ce qu'on a à moderniser et en avançant. Mais il ne faut pas l'oublier. Je l'ai dit hier soir, les hommages... se rappeler du passé, c'est bien. Mais un hommage du temps du vivant, c'est mieux.
Oui.
Pour que les familles puissent en profiter aussi.
Bien sûr. Quelles sont justement les nouveautés qui ont été présentées hier soir? Parce qu'il y avait des nouveautés.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a?
Donc une réforme complète du calendrier général. Donc le calendrier général aujourd'hui, c'est priorité au championnat. La coupe se jouera sur la deuxième partie de saison. Donc là, hormis un ou deux tours de coupe qui étaient intercalés en même temps que la Coupe de France, à partir du troisième tour de la Coupe de France, derrière, il n'y aura que du championnat en Dordogne. Il n'y aura plus de matchs de coupe départementale.
Ça, on a la main là-dessus,
oui.
Sur ce calendrier-là,
oui, tout à
donc
fait.
Ça, c'est important.
Et donc, jusqu'au mois de décembre, il n'y a que du championnat. Et l'idée, c'est qu'avant les fêtes de Noël, on ait fini la phase aller.
Tout d'accord, ouais,
voilà.
C'est très bien, oui, parce qu'on se souvient malheureusement de l'année dernière et des années passées où on a fait des tours de la finale de coupe très tard.
Exactement.
Aussi parce qu'il y avait beaucoup de matchs à rejouer.
Avec une vraie trêve hivernale également, c'est-à-dire on va couper du 10 décembre, enfin 15 décembre jusqu'à quasiment fin janvier, avec au mois de janvier forcément. Certainement 2-3 week-ends par contre pour des rattrapages éventuels qui n'auraient pas pu être faits avant les fêtes de Noël, notamment sur la D1 qui est une poule à 14, donc une poule lourde. Mais priorité au championnat, la coupe se jouera dans une deuxième partie de saison. Dans les autres nouveautés, la coupe, on a décidé faire du neuf avec de l'ancien. C'est-à-dire qu'on a décidé sur la coupe de Dordogne de refaire un tirage Dordogne le Ligue et un tirage Dordogne District jusqu'en 16e de finale. Et à partir des huitièmes, l'objectif pour nous était d'avoir en fait un équilibre en huitièmes de finale, le même nombre d'équipes issues du district, le même nombre d'équipes régionales.
D'accord.
Et comme on a un calendrier général qui est un petit peu différent de celui de la Ligue, ça permet à ce que les clubs de Ligue qui sont très souvent engagés en Coupe de France et en Coupe d'Aquitaine, en plus de la Coupe de Dordogne, de pouvoir jouer de son côté.
L'année dernière, il y a eu par exemple, des équipes qui avaient deux matchs le même week-end.
Exactement. Donc ouais, là, c'est pas le but.
Voilà.
Et donc, les équipes de district vont pouvoir jouer leurs matchs et puis ça peut-être aussi nous permettre d'avoir des belles surprises en huitième avec des clubs de D2, D3, D4 qui auraient fait des jolis parcours en Coupe de Dordogne et se retrouvaient à affronter un club de Ligue.
Ce qu'on leur souhaite, oui,
c'est
bien
une
sûr.
Fête. Le football est une fête. Voilà.
Ouais,
ça fait partie des quelques nouveautés qui ont été présentées hier soir.
Alors, et les autres? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Dans les autres, on a parlé du fonctionnement disciplinaire, de la commission de discipline. C'est moins réjouissant, mais avec une vérité très claire. Priorité à l'écoute et à l'échange avec les clubs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les années précédentes, le licencié, quand il avait pris un carton rouge, avant même de connaître sa sanction, c'est lui qui devait faire la démarche de dire qu'il voulait transformer sa potentielle sanction en travaux d'intérêt généraux, etc. Donc nous, on va inverser le processus.
Bon, il n'y a pas de souci.
On va inverser le processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commission de discipline va analyser aussi la carrière disciplinaire,
l'historique disciplinaire
du licencié. Et un licencié qui aujourd'hui n'a jamais pris de carton rouge, etc., et qui un jour va dégoupiller, va avoir un mauvais comportement, l'idée c'est qu'avant même que la sanction, on va le solliciter par mail officiel en début de semaine et dire au licencié, voilà, aujourd'hui... Tu encours ça, est-ce que tu es prêt à faire des travaux d'intérêt généraux ou pas, oui ou non? S'il dit oui, ben on peut alléger la sanction en mettant du sursis pour compenser. Et justement, les fameux deux week-ends de ferme, ben, il pourra aller faire des actions diverses. S'il dit non, bon, ben, il prendra la sanction qui est prévue par le barème fédéral.
Ça, c'est déjà un bon point.
À l'inverse, les multirécidivistes qui tous les ans prennent 5, 6, 8 rouges et pour des mauvais comportements, bah, à un moment donné, il faut qu'on tape un peu plus fermement. Sachant qu'aujourd'hui, on a la volonté d'épargner par contre la gestion club. Aujourd'hui, ce n'est pas un club de payer les poids cassés d'un point de vue financier sur un licencié qui a eu un mauvais comportement sur un match.
Malheureusement, oui, je pense à une histoire qui s'est passée en fin de saison. Voilà.
Et où la commission de discipline a justement réduit de moitié les frais disciplinaires parce qu'ils ont considéré que justement le club ne devait pas non plus porter totalement la responsabilité du mauvais comportement d'une ou deux personnes.
Voilà.
Quoi d'autre comme nouveauté ? Les comités de direction qui vont être délocalisés dans les clubs. C'est-à-dire que là, à partir du mois d'octobre, on se réunit tous les deux mois, le comité de direction, et ce comité de direction va se réunir tous les deux mois et par Périgord. Et donc, par Périgord, on va faire une réunion. Et donc, ça sera ça chaque année. Donc là, la prochaine, c'est dans le Périgord noir. Ensuite, on aura le Périgord pourpre, le Périgord vert, puis le Périgord blanc. Et on a fait un appel à candidature au club pour nous accueillir.
D'accord.
Et ça nous permettra, en fait, d'accueillir le club bien qui nous accueille, mais également les clubs voisins, les présidents de clubs voisins, pour qu'ils puissent venir assister au comité de direction, un peu comme un conseil municipal.
C'est ce que j'allais dire.
Le même principe. Aujourd'hui, on n'a rien à cacher. Et de toute façon, les décisions, quand elles sont prises de manière collégiale, démocratique. Que les clubs le sachent le soir même ou le lendemain, c'est pareil.
Parfait.
Les plateaux des tout petits, U7, U9.
Important.
Oui. Donc, terminer les plateaux l'hiver à 10h du matin sur des terrains gelés.
Merci.
Aujourd'hui, c'est priorité à l'épanouissement de l'enfant. Et aujourd'hui, il n'est pas question qu'on se retrouve avec des gamins, comme j'ai pu le voir moi l'an dernier, sur des plateaux à 10h du matin. Le terrain était gelé, on les a quand même joués.
Oui.
Donc, ça, c'est terminé. Et donc, là, sur la période de novembre à mars, tous les plateaux auront lieu au mieux à 13h.
D'accord.
Les plateaux U7, U9.
D'accord. Donc, parfait, ça déjà c'est...
Ça fait partie des nouveautés. On va, sur la partie un peu plus technique et sportive, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, il va y avoir le festival des jeunes, qui est en fait donc, sur la catégorie U12. Et donc sur ce festival U12, que l'on crée de toutes pièces en Dordogne, en fait on va faire des sélections U12 par Périgord, Périgord blanc, Périgord noir, Périgord vert, Périgord pourpre. Et enfin, donc avec des semaines où il y aura des sélections sur chacun des territoires, pour qu'on se retrouve en fin d'année, en fait, à faire un match des sélections des quatre Périgords.
Des quatre Périgords.
Exactement.
Parfait.
Qui aura lieu, en l'occurrence, le 25 mai, sur un lieu à définir.
Okay.
Ensuite, on va avoir comme nouveauté... Bon, je pense que tout le monde l'a vu, une communication ultra dynamique.
Voilà.
Une communication ultra dynamique avec notamment des logos créés de toutes pièces pour chaque compétition.
Aujourd'hui. On a repartagé d'ailleurs.
Ouais.
Donc voilà.
Il nous reste deux compétitions à valoriser parce qu'on voulait faire des logos un petit peu différents, notamment sur le critérium A8. Donc c'était important, on a envie de faire un logo un peu sympa. Mais voilà, l'idée c'était de valoriser les compétitions départementales et que sur chaque action de communication que l'on fera, ben, ça nous permettra de pouvoir mettre le logo. Et les clubs en plus aussi, aujourd'hui, ont reçu par mail tous les logos pour qu'ils puissent eux-mêmes reprendre le logo.
Utiliser sur leurs réseaux sociaux.
Exactement, sur leur propre com à eux. Voilà.
D'accord.
Ça c'était l'idée, donc une communication assez dynamique là-dessus. On va avoir quoi dans le planning et dans le calendrier général également. Ça fait beaucoup, hein, en peu
non,
de temps.
C'est,
hein.
Non, c'est bien.
Dans le calendrier général, au niveau des jeunes, on a également prévu, avec Jean-Marc Lallet et avec une vraie volonté d'Olivier Modeste sur la commission technique, on va préparer nos U13, futurs U14, à des matchs à 11. Donc à partir du mois de janvier, février, il va y avoir des week-ends, donc au nombre de 4 samedis qui sont bloqués dans le calendrier, donc il n'y aura pas de compétition, il n'y aura pas de match de rattrapage, il n'y aura rien, pour faire justement des matchs, alors soit des mini-tournois par secteur et par voilà. Périgord, mais en tout cas on va organiser pour
faciliter ce passage à 11 qui est très difficile, parce qu'en fait on perd
énormément
de gamins,
ouais.
Et parce que on est perdu sur le terrain.
Exactement.
Et donc on
n'a
pas on n'a jamais joué, c'est plus grand.
L'avantage c'est qu'ils vont pouvoir s'y préparer. Alors on le sait, les grands clubs, Trissac, Bergerac, Sarlat, ont l'habitude de préparer leurs équipes U13, futures U14. Mais en tout cas, les éducateurs ont l'habitude de commencer à aller sur le foot à 11. Mais on a beaucoup de clubs aujourd'hui qui parfois ont un effectif limité en U13. Ils ont par exemple que 10, 11, 12 licenciés. Ils n'osent pas aller. Ben là, l'avantage, c'est que comme ça sera des challenges
oui,
amicaux,
sans,
il pourrait y avoir des prêts de joueurs éventuellement, etc. L'idée, c'est de faire découvrir le foot à 11 à ces gamins.
Avec les règles qui sont différentes, les gardiens, plein de choses, ouais. Donc ça, c'est beaucoup.
C'est une belle avancée, en tout cas. On a investi sur la caméra VO pour la commission technique, le pôle arbitrage, mais également pour les clubs.
Alors pour la caméra VO, ceux qui ne connaissent pas, c'est la grande caméra verte qui est montée sur un mât de 7 mètres.
C'est ça, voilà. Voilà, et qui permet de faire de l'analyse tactique. Et donc, on a fait cet investissement-là avec des partenaires financiers pour justement permettre à nos commissions de pouvoir développer la formation chez les jeunes, de nos sélections bien évidemment, de nos jeunes arbitres, mais également les clubs pourront avoir accès à cette caméra, ils n'auront plus qu'à la louer pour le week-end par exemple, et ça leur permettra également de pouvoir faire de l'analyse vidéo autour de leur rencontre. L'objectif, c'est qu'on arrive à donner des outils à nos clubs de pouvoir se développer, et notamment dans la formation de nos jeunes.
Parfait.
Qu'est-ce que je vais avoir d'autre encore ?
C'est déjà pas mal. Hein.
Deux derniers points j'ai en tête. Le volet financier, on a mis en place cette année comme test le prélèvement mensuel pour permettre au club, plutôt que de payer toutes les 6 à 7 semaines, entre guillemets, une note un peu plus salée, ben là, on a proposé justement au club qui le souhaitait de mensualiser de septembre à mai leurs dépenses d'arbitrage, de carton jaune, etc.
Frais d'engagement.
Alors, les frais d'engagement, non, c'est à part. C'est uniquement l'été, ça.
Oui.
Mais à partir de septembre, il y a tout le reste, malheureusement. Et donc là, on l'a mensualisé volontairement sur 10 mois pour que justement les clubs aient une facilité de trésorerie et de se dire d'un coup, on ne va pas devoir sortir 1500 euros. Voilà,
oui, je sais, pour en parler à quelques présidents, voilà. Ils sont contents.
Donc là, on a facilité et puis on a eu une volonté également de réduire les kilomètres de déplacement des officiels pour que ça impacte le moins possible. Donc il y a des barèmes qui ont été mis en D3, D2, D1 pour qu'à la fin de la saison là, qui arrive,
ça coûte moins cher.
Ça coûte un peu moins cher. Ça ne va pas coûter 1 000 euros de moins, mais si on arrive à gratter 200-300 euros sur l'année, c'est toujours ça de prix. Et le dernier point, c'est notre gros événement du 7 et 8 juin.
Oui.
Puisqu'on va organiser sur un même lieu, qui est à définir, toutes les finales de coupe départementale, jeunes, seniors et féminines, sur un même lieu, sur le samedi et le dimanche, le lundi étant un jour férié, où on commencerait le samedi en fin de matinée, pour terminer le dimanche soir, et avec le samedi soir notamment, un concert et un marché gourmand après la dernière finale.
D'accord.
Donc l'idée, c'est de créer une belle fête du football où les gens sont heureux de se retrouver, avec notamment le samedi et le dimanche, un plateau télé qui va être organisé pendant les deux jours, avec des interviews des bénévoles, des dirigeants, des éducateurs. On a envie de repenser ce mode de fonctionnement. On sait que c'est un gros événement pour nous. On sait qu'on va être attendu là-dessus aussi parce qu'on révolutionne un peu la logistique autour de ça. Mais c'était un projet qu'on avait en tête. Et puis, quand on l'a présenté au club hier soir, on a eu un retour plutôt intéressé.
Oui, quand il faut faire la fête, de toute façon, c'est bien. Ouais. Ça passe mieux.
en foot rural, il faut, je pense, aussi se rappeler, et foot amateur, qu'on est réunis par des valeurs. Et les valeurs, c'est aussi l'amitié, la générosité, c'est le partage. Et là, je pense que pour le coup, d'intervertir sur des finales, un coup une finale jeune, un coup une finale senior, un coup une finale féminine, d'avoir une finale U15 en levée de rideau de la série pub, bah moi je trouve que c'est top par exemple, parce que ça veut dire
qu'il y aura beaucoup de monde.
Tout le monde va être concerné en fait, c'est le but.
C'est le but, parfait. On est sous la responsabilité, quand on est dans un district, de la Ligue.
Oui.
C'est compliqué en ce moment à la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Il faut juste savoir qu'elle a été placée sous administrateur judiciaire.
Ouais. Voilà. Maître Prigent.
Maître Prigent, suite à l'éviction, suite à des plaintes qui ont été portées par des présidents de district.
Neuf.
Voilà. Et donc... trois listes émergent de cette pour les prochaines élections qui auront lieu au mois de novembre, normalement.
Hein, entre le 4 et le 9 novembre.
Voilà, c'est entre le 4 et le 9. François Grenet, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui a déclaré sur les réseaux qu'il veut mettre fin à des clans et des arrangements entre amis. Mathieu Rabhi, l'ex-président du district de Pyrénées-Atlantiques, du 64, Mathieu, pardon. qui était un ancien proche du président et qui aussi s'était mis en retrait et en marge par rapport à des divergences. Et une autre liste est apparue, la liste de Dominique Philippe, là, très récemment. Oui. Très récemment.
15 jours, 3 semaines à peu près.
15 jours, 3 semaines, donc voilà. Est-ce que d'ores et déjà, on a décidé vers qui on allait se tourner quant au district de la Dordogne?
Ah oui, on a décidé vers qui on allait se tourner et on va se tourner vers personne.
D'accord. Alors c'est le quatrième. Hein,
on a fait un choix très clair. Aujourd'hui, on considère, et on l'a fait de manière démocratique, on en a parlé en comité de direction dès le 1er juillet, mais on ne savait pas encore qui se présentait. On en a reparlé au comité de direction du 26 août. Et le 26 août, le comité directeur était ouvert à tous les nouveaux présidents de clubs qui ont été élus au mois de juin. Oui, donc pour le coup, on en a parlé publiquement, donc sans tabou. Et on a été très clair en disant qu'aujourd'hui, notre position... elle est fidèle à celle qu'on a eue pendant la campagne. On ne soutiendra personne. On accueillera tout le monde en Dordogne, c'est-à-dire Mathieu Rabhi,
François Grenet,
ou Dominique Philippe. Ils veulent venir en Dordogne, ils veulent me rencontrer, pas de problème. D'ailleurs, j'en ai rencontré deux sur les trois. Mathieu Rabhi, c'était en réunion téléphonique d'une heure. François Grenet est venu à Marsac, je l'ai rencontré. Et si Dominique Philippe veut me rencontrer, la porte est grande ouverte. Ils auront le même discours de notre part. C'est que moi, je suis là pour défendre les intérêts des clubs du département et de mon comité de direction et des bénévoles des commissions. Et l'idée, c'est de dire, quoi qu'il arrive, on devra travailler avec celui qui sera élu.
Donc personne du comité directeur
ne sera sur aucune des trois listes. Et c'est une position très claire là-dessus.
Très claire là-dessus. Donc là, au moins, c'est clair. Un petit sujet qui est important. On a vu donc ces nouveaux logos, le partenariat, toujours, oui. Série Pub, oui. pour la D1.
Oui.
Et est apparu le classement des buteurs, également, oui. De D1.
Oui.
Alors ça, c'est quelque chose, j'en avais parlé avec une membre du comité départemental de basket, ils font ça aussi, les meilleurs marqueurs, les meilleures marqueuses. Et j'avais trouvé ça, moi, à titre personnel, un peu, pas choquant, mais... embêtant, c'est un peu comme le ballon d'or en fait, je ne suis pas un grand fan de mettre en avant, mais ça, ça aussi c'est une nouveauté qui a été...
Le titre de meilleur buteur, il existe déjà depuis deux saisons, sauf que l'an dernier il a été moins bien mis en avant en l'occurrence, sauf qu'aujourd'hui c'est un engagement qui avait été pris entre guillemets sur les années précédentes, il y a le challenge du fair play sur la D1, oui. La D2... Maintenant, ça va être sur la D3, puisque dans les nouveautés, il y a également le fait qu'on va mettre en place le fair play également sur la D3, sur le même format que sur les U17. Et à terme, j'espère qu'on va également mettre le fair play sur les féminines, à 8 ou à 11, mais il faut qu'on arrive à développer cette notion.
Oui, chaque chose en son temps.
Voilà, mais étape par étape.
Ouais.
Et on a tout simplement décidé de reconduire ce challenge du meilleur buteur. Pourquoi ? L'idée, on l'a trouvée intéressante, dans le sens où ça permettait de montrer des joueurs amateurs, voilà, en Dordogne, dont on ne parle pas, et de les mettre un petit peu en valeur parce qu'ils font des bonnes saisons, parce qu'ils marquent des buts, qu'ils sont décisifs avec leur club.
Y en a qui ont compris, hein, parce qu'il y en a qui en ont mis trois sous le gain, deux. Donc...
je prends l'exemple, moi, de Hugo Charriras, qui a été donc élu meilleur
joueur de la Tibérienne
de l'an dernier. Ouais. Et donc, l'an dernier, en D1, il finit meilleur buteur. Et Hugo, quand on le voit jouer, c'est un joueur qui est d'un calme, d'un fair play, d'une simplicité et qui est super agréable, quoi. Et
ça doit tenir de la maman parce que c'est pas le papa, ça.
Ah, le papa est un peu plus sanguin, pardon.
Non, David, salut.
mais ce que je veux dire par là, c'est que preuve que... Alors oui, hier soir, quand on a fait la remise du fair play de la saison dernière, parce que la saison dernière, ça n'a pas pu se faire malheureusement, donc là, on a remis hier soir le challenge du fair play. Et la première chose qu'il a dit, je remercie les bénévoles de mon club.
Ah oui, là-haut, c'est important.
Et pour le coup, c'est vrai que souvent, on parle de collectif, mais pour qu'une équipe monte, à un moment donné, il faut des buteurs et il faut un bon gardien aussi.
Voilà.
Donc peut-être qu'en fin de saison, on va peut-être décerner le titre de meilleur gardien, qui sait, ça sera peut-être une nouveauté de la saison en fin de saison, mais... Moi, j'ai pas trouvé mal en tout cas.
Ok, c'est pas grave en soi, mais c'est voilà.
Ouais, j'entends le côté individualiste. Je l'entends. Après, voilà. on, On a quelques marches encore à gravir pour le Ballon d'Or.
Ouais, c'est ça. Non, mais au Ballon d'Or, mais bon, c'est quand on voit que certains ne sont pas nommés, par exemple, c'est quand même catastrophique. Ouais.
Là, voilà. Pour le coup, c'est du factuel, c'est des buts qui sont marqués.
C'est vrai.
Et c'est les arbitres qui le mettent sur la feuille de match à la fin de chaque rencontre de D1. Ils mettent les buteurs. Donc,
d'accord.
Pas de triche possible.
Oui, non, mais alors là, je n'avais même pas pensé. J'avais même pas
non, pensé mais bon, je préfère le dire sur les anges.
J'avais... on va l'enregistrer. D'accord, très bien. Prochain tour, ce week-end, on rebascule sur la coupe.
Sur la coupe, ouais.
On n'a pas de chance,
ouais,
quand même.
Vrai.
On a vraiment, en Dordogne, on n'a vraiment pas de chance.
Non,
parce qu'on se tape 4 derbies.
Ouais, j'étais...
Périgueux, Football Azac, Nontron-Sarlat. Bon, Nontron-Sarlat, le derby, bon, c'est juste parce que c'est en Dordogne, hein, mais il y a 2 heures de route, quand même.
Oui.
Condat-Montignac, alors ça, c'est un sacré derby.
Montpont-Chamier.
Et Montpont-Chamier, voilà. On pense aussi... on en parlait juste avant la chance là qui prend une National 3. Il y a plein d'autres clubs qui sont encore en course.
Alors d'un côté on peut se dire tant mieux, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir des
clubs au prochain tour.
Ouais, exactement. Et donc d'aller chercher les maillots.
Oui, c'est vrai aussi.
Donc
il y a encore des tours à passer.
Ouais.
Mais
oui. Ben non, c'est le prochain tour vu que là c'est le troisième. Donc
et
là,
oui, c'est
s'ils
le troisième.
Passent, ils auront les maillots.
Ils auront les maillots.
Donc en quelque part je me dis bon voilà.
Ouais.
Donc, c'est bien parce que là je prends l'exemple. Condat-Montignac, D1, D3. Donc, tous les cas, on aura un club de district qui aura les maillots.
Condat qui a fait un exploit au premier au tour d'avant.
Bah,
donc,
donc, c'est chouette. Voilà.
Ouais.
En effet, Périgueux Football Azac, ben, on aura un club de Dordogne à nouveau au quatrième tour. Nontron-Sarlat, pareil. Moi, j'y vois plutôt un côté positif.
Ouais.
Voilà.
Ouais, après, j'étais un peu déçu, moi, quand même, quand j'ai vu ça. J'ai dit, bon, voilà, c'est un peu.
On a pas mal de clubs. On a quelques derbies également sur la Coupe d'Aquitaine. Hein.
Oui.
Coupe d'Aquitaine, on a Saint-Vincent-Tocane, le petit derby.
Ouais, très bien.
Ouais, ça va être pas mal.
Ouais.
On a un Périgueux Foot Roufignac, Périgord Foot Roufignac qui, je pense, va être sympa aussi. On a Razac Chapelle, voilà.
Ouais,
c'est
non,
chouette.
Non, sympa, ouais, c'est chouette. Bon, mais très bien. on arrive à la fin de l'émission, ça passe super vite, une demi-heure, hein, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jonathan, pour cette saison-là, pour.
Ce qui est ressorti de la réunion d'hier soir par les clubs, principalement, c'était le sentiment d'apaisement et de sérénité. Et aujourd'hui, j'espère que c'est ce climat-là en fait, qui va régner sur l'ensemble de la saison et du mandat. On fera sûrement des erreurs, parce qu'on est bénévole, donc on fera sûrement des erreurs.
On fait tous.
Par contre, on est vraiment à l'écoute. On a vraiment ouvert les portes du district. On les a également ouvertes sur la composition des poules, sur plein de choses. On a fait preuve d'une transparence totale. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est un apaisement, c'est qu'on arrête les petites polémiques sur les réseaux. Quand je vois des fois des commentaires sans connaître les dossiers, c'est toujours un peu rageant parce que on se met pas à la place de ceux qui œuvrent au quotidien au district. Ce que je souhaite, c'est une réussite de nos clubs régionaux et nationaux.
Oui.
Je pense à Bergerac, à Trissac, j'espère qu'ils vont se maintenir aisément. J'espère que nos clubs régionaux vont se maintenir, voire jouer les premiers rôles également. Et que sur nos compétitions départementales, on ait des bons moments, qu'on n'ait pas de violence. C'est vraiment important aujourd'hui parce que le football a beaucoup à donner. On s'est un peu perdu pendant quelques années sur certaines valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve ces valeurs d'entraide, de partage. Alors oui, pendant 90 minutes, en effet, ça charbonne sur le terrain.
Oui, non, mais
ça,
c'est...
une fois que le coup de sifflet final est fini, il faut qu'on passe à autre chose.
Ouais.
Et je pense qu'à l'image... Enfin, on sait qu'on a une société qui est parfois un peu en difficulté. Et je pense que le foot doit redorer cette image-là. Donc ce que je peux souhaiter, c'est surtout de la réussite à nos clubs. Beaucoup de bonheur à tout le monde sur les terrains et en dehors, parce qu'il y a des gens qui sont en dehors et qui prennent du plaisir à venir sur les stades. Et puis surtout, avoir une belle évolution de notre football départemental, aussi bien chez les jeunes, chez les féminines, dans le football diversifié que sur le foot herbe. On a le foot adapté qui, je pense, a beaucoup à nous apprendre également sur nos valeurs.
Oui.
Donc aujourd'hui, on a un gros travail à faire là-dessus, mais la structuration qu'on est en train de mettre en place, elle est au service des clubs.
Ok.
Voilà.
Parfait, super, c'est le mot de la fin. Jonathan, merci beaucoup, bonne saison.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Et puis, avec plaisir, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir.
Au revoir.
RLP Sport, c'est fini, mais l'émission est toujours disponible en podcast sur le site de RLP. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. RLP Sport en direct tous les mardis à 19h avec Thomas Delpero.